Parce qu'à chaque semaine, on veut également vous faire découvrir des gens qui, par leurs actes, qui, par qui ils sont, changent le monde pour le mieux. Et l'Aide internationale à l'enfance, c'est un organisme qui œuvre et même qui, je dirais, qui lutte contre les injustices qui sont faites aux enfants. Cet organisme a été fondé en 2000 et pour nous en parler, qui de mieux que la fondatrice et directrice générale? On a avec nous Madame Roxana Robin. Bonjour, Madame Robin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est d'une gentillesse et d'une générosité.
Ben, merci de m'avoir invitée.
Vous allez bien? Vous êtes en France actuellement?
Oui, actuellement, je suis en France, oui.
C'est incroyable, mais merci d'avoir accepté d'aussi loin, je dirais.
Ah, ça fait vraiment plaisir.
L'aide internationale à l'enfance, c'est votre projet. Vous l'avez débuté en l'an 2000. J'aimerais que vous nous en parliez davantage. Sa mission est à double volet, n'est-ce pas?
En fait, on lutte contre l'exploitation des enfants dans le monde. Pour l'instant, on a des projets principalement en Inde, en Thaïlande. On essaie d'avoir un nouveau projet en Haïti. Et l'autre volet, c'est tout ce qui est la sensibilisation et l'éducation du public sur cette thématique-là. Parce que quand on parle d'exploitation des enfants, on parle évidemment de pauvreté, de manque d'éducation, d'inégalité entre les sexes, etc. Donc, on fait à la fois de l'éducation au Québec. Et on aide en Inde, en Thaïlande et voilà, dans nos autres pays en voie de développement, on a des projets vraiment directs avec les communautés ciblées.
Oui, on parle d'exploitation par le travail également. Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur la situation actuelle?
En fait, on touche à toute forme d'exploitation des enfants. Donc ça peut être l'exploitation sexuelle, ça peut être des enfants qui travaillent dans des usines, dans des carrières de pierre, des enfants qui travaillent dans le secteur de l'agriculture. En fait, on touche vraiment à des enfants qui travaillent dans tous les secteurs. Quand on parle d'exploitation d'enfants, on parle d'enfants qui travaillent en moyenne 14 heures, 16 heures par jour, qui sont littéralement privés de leurs droits, privés de leur liberté. En général, ce sont des enfants qui travaillent pour rembourser des dettes qui ont été acquises par les parents. Donc, on parle souvent de servitude pour dettes. Quand on parle d'exploitation d'enfants, on parle aussi évidemment d'exploitation des parents. C'est rare de trouver des enfants exploités sans parents exploités. En général, c'est parce que les parents sont eux-mêmes exploités que les enfants en viennent à être exploités.
Non, c'est une
Donc, on touche.
situation qui est familiale, qui est
On
intergénérationnelle.
touche, oui, voilà, exactement. On touche vraiment direct. On touche à la fois les parents, les enfants, les communautés. Donc, c'est très, très important d'éduquer autant les parents et les adultes sur leurs droits et de les aider aussi à s'en sortir financièrement. Donc, on fait du microcrédit, ce qui est d'ailleurs ce qui aide vraiment. Parce qu'une des raisons de l'exploitation des enfants, c'est la pauvreté extrême des parents et beaucoup le manque d'éducation.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette forme d'aide que vous offrez, le
Alors,
microcrédit?
on a le microcrédit effectivement directement relié aux femmes marginalisées ou aux parents des enfants qu'on aide. On a un projet où on a sorti les enfants de différentes formes d'exploitation, comme je disais tout à l'heure, dans des petites filles qui travaillent dans des usines à crevettes, dans des carrières de pierre, des petits garçons qui étaient pêcheurs, qui travaillent dans le secteur de l'agriculture. Et nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment l'éducation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque ces enfants-là et on les accompagne tout au long de leur scolarité pour qu'ils deviennent diplômés et qu'un jour, ils trouvent un bon emploi. Donc, c'est vraiment pour briser le système, le cercle vicieux de l'exploitation, pour que ces enfants deviennent des adultes autonomes et que eux-mêmes, quand ils ont des enfants, puissent envoyer leurs enfants à l'école. On a des projets à Mumbai où on lutte directement avec un partenaire local contre l'exploitation sexuelle. Donc, on offre de la formation à des jeunes filles qui ont été libérées de l'exploitation sexuelle. On a deux écoles dans des bidonvilles et en Thaïlande, on travaille directement avec des communautés, des immigrants illégaux, encore là, par le biais de l'éducation, de formation professionnelle, de soins de santé, etc. Donc, c'est vraiment par le biais de l'éducation qu'on peut briser le cercle vicieux de l'exploitation.
Et le second volet dont vous avez parlé, c'est également de sensibiliser les communautés et les encourager à poser des actions concrètes de solidarité. Comment on peut faire la différence avec vous à ce moment-là?
De façon vraiment différente. C'est ça, vous avez dit au début, j'ai fondé la IPE, et tout. Mais vous savez, c'est pas moi hein, qui fait la différence, c'est tout un groupe de personnes. Non. Donc, c'est s'impliquer. Déjà, en partant, s'impliquer pour un organisme, que ce soit. ça, là, on parle de coopération internationale, mais ça peut être un organisme communautaire, ça peut être un organisme qui fait la différence dans son quartier. C'est juste une façon de s'impliquer, de donner tout son temps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, des personnes dans les écoles qui ramassent des fonds, qui font des activités de financement. Donc ça, c'est clair que pour nous, ça nous aide beaucoup. Mais c'est une prise de conscience. C'est surtout une prise de conscience des inégalités dans le monde. Je pense qu'à partir du moment où on prend cette conscience-là, qu'il y a une prise de conscience, on a envie de poser un geste, et ben on s'implique auprès d'un organisme. Donc la meilleure façon, c'est de s'impliquer, de donner de son temps.
Exactement. Vous parlez de donner de notre temps, vous parlez de collaborer, d'être présent de notre personne, d'offrir qui l'on est comme ressource. Vous avez été quand même humble en disant que vous ne faites pas la différence. Je pense que vous êtes... c'est sûr que cet organisme est plus grand que la somme de ses parties, mais n'en demeure pas moins que vous avez quand même eu cette idée à la suite d'un voyage que vous avez fait. Vous avez été bénévole dans un orphelinat en Inde. Donc, vous avez vous-même offert de votre temps. Et vous avez vous-même agi. Non, mais c'est très important parce que vous prônez et vous encouragez ce que vous avez vous-même fait. Vous agissez, vous donnez l'exemple.
Et oui, en général, c'est toujours mieux de donner l'exemple quand on dit aux personnes impliquez-vous. Je pense que si on ne s'implique pas soi-même, ça manque de crédibilité.
Non, mais il y en a qui le font. C'est pas votre cas. Et je vous en félicite. Non. Mais. Qu'est-ce qui mène une jeune femme, parce que vous étiez très jeune à cet âge-là, à ce moment-là?
Oui, j'avais une vingtaine d'années, j'avais 26 ans. En fait, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très sensible à la cause des enfants qui souffrent dans le monde. Moi, j'ai été adoptée. Mm-hmm. J'ai été dans un orphelinat les premières années de ma vie au Bangladesh avec ma vraie sœur. Ouais. On a eu la chance d'être adoptée. Mais il y a toujours eu un côté en moi qui toujours a une pensée pour ces enfants-là de l'orphelinat dans lequel j'étais quand j'étais petite. Donc, j'ai toujours été sensible à cette cause-là. Et effectivement, à 26 ans, j'ai décidé de tout laisser tomber ce que j'avais et de partir faire du bénévolat pendant quelques mois. Pour savoir si c'était vraiment ma mission, d'abord. Pour savoir si j'étais faite pour ça, puis pour connaître surtout la réalité. Parce qu'on peut entendre parler de la pauvreté, voilà, on peut le voir à la télé, dans les journaux, mais une fois qu'on est sur le terrain, ça change tout, en fait.
Absolument, la distance et la proximité qu'on a dans sur le terrain, c'est vraiment difficile.
Oui, c'est d'être en contact avec les personnes qui vivent cette réalité-là.
Mais vraiment, mais c'est très important ce que vous avez dit, parce que oui, vous êtes née au Bangladesh, vous avez été adoptée, vous arrivez au Canada à 20 ans après avoir...
J'ai grandi en France.
Vous avez grandi en France, oui. Par un couple français, que vous avez été adopté par un couple français. Vous êtes arrivé au Canada à 20 ans après avoir passé des années difficiles aux États-Unis. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Vous vous installez ici, vous commencez à travailler dans une banque et vous dites que le vide s'installe.
Oui, en fait, vous savez, quand on a l'impression qu'on est complètement à côté de sa vie, on ne vit pas ce pourquoi on est né. Je pense qu'on a tous, à quelque part, une mission de vie. En tout cas, moi, c'est ma croyance à moi. On a tous une mission dans la vie.
Je la partage.
Il faut la trouver, cette mission-là. Mm-hmm. Pour d'autres, pour certaines personnes, c'est long, c'est difficile. Mm-hmm. Et pour d'autres, pour moi, ça s'est passé rapidement. Puis je l'ai trouvé, effectivement, cette mission de vie quand je suis allée en Inde. Mais c'est vrai qu'avant, j'aille en Inde, je me sentais réellement vide. Je sentais un vide immense à l'intérieur de mon cœur, de tout mon être. J'avais pas de raison précise pour laquelle je me levais le matin, quoi. Si ce n'est que de faire de l'argent et puis accumuler derrière. Puis, voilà, c'était pas suffisant pour moi pour me lever le matin. Ça me prenait autre chose.
Non, puis je vous comprends. Puis avec c'est un honneur et c'est tout en votre honneur, en fait, de l'avoir fait. Et vous dites que vous avez complètement laissé tomber un mode de vie qui faisait aucun sens pour vous. Donc, combler le vide par le partage et par le don de soi, ça a été votre réponse.
Au début, c'était oui, on peut parler de partage et donc ça, je trouve que c'est quand même des grands mots, mais oui, effectivement, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. C'était vraiment plus une quête, en fait. Moi, je vois ça plus comme la quête de trouver sa mission. Puis une fois que j'avais trouvé ma mission, c'était de m'y jeter dedans à corps perdu, quoi, parce que ça me remplissait, parce que je me sentais vivante. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas vraiment une notion de je me donne, je partage, je suis généreuse. C'était pas du tout, c'est même purement égoïste. C'est vraiment égoïste dans le sens où il fallait que je vive cette mission-là parce que ça me faisait sentir vivante, quoi. Ça me donnait une raison de vivre, en fait, tout simplement. Donc,
Mais c'est très intéressant la façon dont vous en parlez, parce que je dis parfois à quel point l'altruisme a un visage un peu égoïste, sans que ce soit nécessairement négatif. Au contraire, je pense que de se servir et de servir les autres en même temps, c'est une belle façon de colliger nos efforts.
Oui, moi, je ne me considère pas comme une personne généreuse hein, dans ce que je fais.
Non, mon Dieu.
C'est vraiment égoïste dans le sens où je remplis un besoin qui est en moi, qui est d'aider les autres. Ouais, ou de me battre contre une injustice, mais c'est un besoin qui est très, très personnel.
Mais donc, justement, je veux vérifier avec vous parce que c'est quelque chose qui est très proche de vous, ce contre quoi vous vous battez, entre guillemets, c'est-à-dire que vous travaillez également sur le plan du tourisme et de l'esclavage sexuel. Vous êtes en constant contact avec ces enfants qui ont une enfance volée, et vous l'avez nommée, vous avez souvent revu vous-même qui avez eu la chance d'être adoptée, alors que d'autres ont été oubliés. Comment vous trouvez votre bonheur là-dedans? Et est-ce que c'est pas parfois, en tant qu'empathique, trop difficile? Comment vous faites le pont entre les deux?
Ah oui, c'est très dur. C'est très dur. Non, c'est pas, moi, j'ai jamais été, ça m'a jamais intéressé le bonheur. En fait, je me suis jamais posé la question de savoir, voilà, est-ce que si je vais faire ça, est-ce que je vais être heureuse? Ça m'a jamais, je suis pas une personne qui court après le bonheur. La notion de bonheur est très, très vague pour moi. C'est plus de sentir que je suis à ma place, que je fais les choses que je me dois de faire, que je vis ma mission. Donc là, ça comble, oui, ça peut me rendre heureuse de savoir que je suis à ma place, mais la lutte contre l'exploitation des enfants, c'est extrêmement dur. Il y a personne qui choisit ça pour être heureux dans la vie. C'est pas non. Parce que c'est extrêmement difficile. La coopération internationale est difficile déjà à la base. On est toujours en train de rechercher du financement. On est toujours en train de se battre pour nos projets. On a toujours des mauvaises nouvelles. On voit des enfants exploités, abusés. Je veux dire, c'est dur. C'est un monde qui est extrêmement dur. C'est d'une grande injustice. Donc, confronté à cette réalité-là au quotidien, c'est vraiment pas facile. Et voilà, après, la notion de bonheur, je la trouve ailleurs, quoi. Dans les bras de mes enfants, quand je leur fais des câlins, ou voilà. Mais c'est pas au travers de ma mission que je vais dire que je me sens... Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas le bonheur, le sourire aux lèvres, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus un sentiment d'accomplissement.
Non, j'entends vraiment ce que vous dites, et pour moi, ce que j'entends, c'est que ce qui vous... ça vous rend vivante, fort probablement, effectivement. Et vous dites que le bonheur est dans les bras de vos enfants, et je suis contente de savoir qu'en tant que femme et qu'en tant qu'être humain, vous avez vos sources de bonheur. Et en terminant, il nous reste une petite minute et demie. J'aimerais quand même que vous nous expliquiez où vous trouvez cet argent-là pour recevoir votre aide.
Alors, on a différents bailleurs de fonds. On a des donateurs. Les gens nous font des dons par le site web. On peut faire un don directement à la IPE via notre site web. Et après, c'est différents donateurs, des entreprises, des syndicats, des congrégations religieuses, des fondations. Donc, on a toutes sortes de mais c'est un travail qui est constant. C'est constant et c'est très éphémère. On a des donateurs qui vont nous donner pour un an. Et puis, c'est à chaque année, à chaque mois, il faut travailler là-dessus, quoi. Donc, c'est difficile. C'est un côté, le financement, qui est un côté qui est très difficile.
Et donc, dans ce contexte-là, et en terminant, j'aimerais savoir où vous trouvez votre satisfaction quotidienne à ce moment-là.
Dans les résultats qu'on atteint, quand je parlais du microcrédit tout à l'heure, on atteint des résultats qui sont magnifiques, des femmes qui étaient littéralement exploitées, qui sont devenues autonomes, qui sont devenues fières d'elles, qui sont sûres d'elles. On a des petites filles, des enfants qui travaillaient 14 heures par jour, qui maintenant sont ingénieurs, sont infirmières, sont professeurs. Donc, c'est là-dedans, c'est dans les résultats. Les petits résultats, c'est dans le. Il faut vraiment regarder à l'individu. Il faut s'arrêter à chaque individu pour savoir, OK, est-ce que cette personne-là a réussi à s'en sortir? Et si oui, ben voilà, c'est sûr que ça nous pousse, nous, à continuer.
Merci infiniment, Madame Robin. Merci beaucoup de changer le monde à chaque jour.
Merci de m'avoir invitée.
Merci.